Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Finalement, les histoires d'amour qui vous sont racontées ici ne sont que des allégories de la vie en général. On croit que tout est perdu et puis tout à coup, tout s'inverse. On passe de l'extrême tristesse au bonheur absolu. Alors si vous ne croyez pas à l'adage « l'espoir fait vivre », eh bien Tristan va vous prouver que vous devriez, car ce n'est pas un coup de foudre qu'elle a provoqué, mais bien deux coups de foudre.
Alors cette histoire, elle commence en 2012. Donc je suis chroniqueuse à la radio, à Radio France, et je rencontre un garçon, on se met vite ensemble, on se met vite à vivre ensemble aussi. Et 2 ans plus tard, je tombe enceinte. J'ai jamais été une femme avec la volonté d'enfant absolument chevillée au corps. Je suis la mère la plus heureuse du monde aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qui me travaillait. L'horloge biologique n'a jamais été quelque chose qui m'angoissait. Et donc, je n'avais pas ce besoin de vite tomber enceinte ou quoi que ce soit. C'est complètement un projet commun d'avoir un enfant, d'autant plus que j'ai toujours utilisé comme moyen de contraception l'implant. Donc, ça impose d'aller voir le médecin, de le faire retirer, voilà. Et cette démarche-là aussi, d'ailleurs, on l'avait faite ensemble. Donc, voilà, c'était parfaitement assumé, voulu de nous deux. Et je tombe enceinte en tout début d'année 2015. Assez logiquement, la partie la plus difficile de ma grossesse intervenait en plein été. Et je vis au 4e étage, sans ascenseur. Ce détail a son importance dans l'histoire parce que du coup, à peu près à 6 mois de grossesse, je vais demander à mon compagnon, si ça ne le dérange pas, qu'on aille vivre en Normandie chez ma mère, qui vit dans un corps fortifié, moyenâgeux, donc frais, et de plein pied surtout, dans la campagne. Et je lui demande du coup s'il est d'accord de m'accompagner pour que je finisse ma grossesse là-bas et que j'ai plus à monter les 4 étages, surtout qu'en 2015, c'est une année de canicule assez importante. Mais il m'explique que pour des raisons professionnelles, pour lui, c'est difficile de quitter Paris, ce qui ne me surprend pas du tout plus que ça, parce qu'il travaille dans un milieu où beaucoup des affaires se font effectivement pendant la période estivale. Il me dit qu'il viendra me voir de temps en temps. Il me dit que de toute façon, quand bien même je resterai à Paris, il ne serait finalement pas là souvent, parce qu'il a beaucoup de déplacements à faire, et qu'effectivement, c'est mieux pour moi d'aller là-bas, qu'il viendra me voir dès qu'il peut. Donc j'y vais. En plus, c'est facile pour moi d'aller là-bas. J'ai des affaires là-bas. Enfin, c'est à l'Éridion, mais la logistique est facile. Ouais. En plus, quelques mois avant d'accoucher, j'ai sorti un livre. Donc, il y a tous les festivals du livre pendant l'été. Et puis comme ça, ma mère peut m'accompagner aussi sur les salons du livre, ce qui n'est pas sans importance quand on se retrouve avec une première grossesse qui, j'imagine, comme toutes les futures mamans, j'étais un peu angoissée quand même. Il a été marié, il a eu un enfant, il semble être un père merveilleux. D'ailleurs, je me souviens que quand parfois des amis, sur le ton de la rigolade, quand ils me disent « tu vas voir qu'il va partir et que l'histoire va se répéter », puisque moi-même, mon père n'est pas resté après ma naissance, à chaque fois, je dis « alors ça, non, il peut avoir tous les défauts du monde, mais en revanche, s'il y en a bien un qui est un père très, très présent, c'est lui ». Tous les voyants sont ouverts et surtout, je ne suis pas d'un naturel à m'inquiéter dans mes histoires de couple. Pas du tout. Dans ma tête, tout se passe bien et la rentrée arrive, gentiment. Vers le mois de septembre, je commence à revenir à l'appartement parce qu'il faut préparer un minimum la chambre de cette petite fille qui va arriver. Ce n'est pas si évident que ça puisque mon appartement est tout petit. Il faut savoir qu'il vit chez moi. Donc, on est passé d'un appartement qui était fait juste pour moi à un appartement qui a dû être fait pour deux, voire pour trois, quand son fils était à la maison. Et là, il faut que ça devienne un appartement fait pour nous et pour un bébé. Lui n'est pas souvent là. Donc déjà, ça règle une partie du problème, en ce sens que c'est plutôt à moi de préparer la chambre, puisque lui fait beaucoup de déplacements professionnels. Et là encore, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, en fait. Je me sens jamais seule parce que j'ai plein d'amis, en fait. Donc, c'est sans doute aussi ce qui a fait qu'à aucun moment, je vois que peut-être quelque chose ne va pas ou quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup d'amis qui, en plus, sont parents, donc qui me donnent plein de conseils, qui m'aident, qui me soutiennent. Et puis, arrive quelque chose qui n'était pas forcément prévu, déjà, c'est que mon bébé, ma petite fille, semble avoir aucune envie de sortir de là où elle est. J'arrive gentiment à mes 9 mois de grossesse, j'ai aucune contraction. Et du coup, mon obstétricien me dit, le terme devait être le 4 octobre, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous débarquez à l'hôpital, on m'appellera et puis voilà, ça se passera comme ça doit se passer. S'il ne se passe rien, le 5, donc le lendemain du terme, au matin, vous vous présentez à 7h15 et on provoquera l'accouchement. Parce que malgré tout, je suis quand même pas très épaisse, je suis pas non plus une force de la nature, et il était pas très prudent de faire durer comme ça les choses très longtemps au-delà du terme. Moi, je m'imagine pas du tout me lever à 5h du matin le jour de mon accouchement pour être prête à être à l'hôpital à 7h15, et je me dis, la meilleure idée, c'est sans doute de prendre une petite chambre d'hôtel à côté de l'hôpital. Et comme ça, tout sera beaucoup plus relax. Et j'en parle à mon compagnon, qui me dit que c'est une très bonne idée, mais qui m'explique que pour des raisons professionnelles liées à un événement qui se passait la veille, justement, le 4 au soir, je le sais depuis de longues dates que cet événement doit avoir lieu, il me dit qu'il ne pourra me rejoindre que le lendemain à l'hôpital, au moment où le travail commencera, mais qu'il ne peut pas aller avec moi à l'hôtel le soir même. Résultat, qu'est-ce que je fais ? J'appelle ma mère et je lui demande si elle veut bien venir dormir avec moi à l'hôtel la veille de l'accouchement, parce que je ne me sens pas du tout de passer la nuit seule dans une chambre d'hôtel. Elle passe me prendre la veille de la naissance. Il m'accompagne jusque sur le trottoir au moment où je monte dans la voiture de ma mère et on est tous les trois d'accord sur le fait que dès que le travail commence, il débarquera. À ce moment-là, moi, je le sens très serein, mais donc pas excité, pas dans une impatience extrême, ni dans quoi que ce soit d'autre. Non, je le sens très serein, mais en même temps, dans ma tête, je me dis, lui, il en a déjà eu un, qu'il a peut-être pas cette même excitation de l'enfant à venir que moi, qui suis angoissée, excitée, apeurée. Du coup, je me dis presque que son calme est plutôt rassurant. J'essaye de relativiser mes angoisses et mes excitations en voyant son calme, quoi. D'abord, on va dîner avec ma mère, en tête à tête. On plaisante sur le fait que c'est mon dernier dîner de femme sans enfant. Et après, on a des amis avec lesquels on se rejoint et on fait des photos avec mon gros ventre en se disant que c'est le dernier jour où je le porte. J'en garde vraiment un merveilleux souvenir et j'en garde un souvenir joyeux et léger surtout. Et puis on rentre à l'hôtel vers minuit et demi, 1h du matin. Et un peu avant 1h30, je reçois un SMS et mon compagnon me dit que ils se séparent. Sur le coup, il me dit qu'il fera tout ce qu'il faut faire par rapport à l'enfant qui doit arriver, mais que lui part, qu'on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il vient d'en prendre conscience et que pendant que je serai à l'hôpital, il viderait ses affaires de chez moi et que tout allait bien se passer comme ça. Ça a été un moment très compliqué. Je pense que je me souviens de ce moment comme d'un moment très difficile parce que je m'interdis absolument de pleurer parce que je refuse de réveiller ma mère qui s'est endormie à côté de moi, parce que je connais quand même un peu ma mère. Et je me dis que si elle me voit en train de pleurer et que je lui explique pourquoi je pleure, elle va m'engueuler en me disant qu'elle n'a jamais eu une passion pour ce garçon et que, comme elle le pensait et comme elle l'avait toujours dit, elle avait raison de ne pas le sentir. Ce en quoi il est vrai qu'elle avait raison de ne pas le sentir. Et donc, je m'empêche absolument de pleurer. Et le problème, c'est que je sanglote à l'intérieur. Et plus je sanglote à l'intérieur, plus j'ai envie de sangloter à l'extérieur. Et je finis par pleurer parce que j'arrive pas à me retenir. Et j'ai de la chance parce que ma mère, elle sommeille lourd. Ce qui est très brutal, c'est le fait que je ne m'y sois pas attendue du tout, du tout, du tout. Après, avec le recul, je me dis évidemment qu'on a eu des engueulades. J'avoue qu'à ce moment-là de ma vie, j'y pense plus. Mais évidemment qu'on a eu des engueulades. Mais à aucun moment, je me suis dit que ça pouvait finir comme ça, que ça pouvait se passer comme ça. Et à aucun moment, a fortiori, je me suis dit qu'on pouvait laisser tomber quelqu'un à 6 heures de son accouchement. D'autant plus que c'est un accouchement programmé, donc qui sait ce qui va se passer. Je lui envoie plein de messages jusqu'au moment où il a répondu à pas mal pour répéter la même chose en boucle. Et puis à un moment, il a arrêté de répondre. Et puis je finis par aller me passer un coup d'eau sur le visage et à me dire qu'il faut que je m'endorme, que ça va lui passer, que c'est sans doute un petit stress avant naissance, que je vais me réveiller, que ça sera un autre jour et que je vais l'appeler quand le travail aura commencé et que tout se passera très bien. Et donc je finis par m'endormir à peu près. On se prépare, on va à l'hôpital. À l'hôpital, il y a tout un tas de trucs administratifs à remplir qui m'occupent à peu près l'esprit. Et puis, je finis par réussir à me convaincre qu'en réalité, c'est un coup de nerf et que ce coup de nerf allait passer. Donc, on me fait tous les traitements, piqûres d'ocytocine qui s'en suivent pour provoquer l'accouchement. Et les choses s'accélèrent à partir du moment où l'ocytocine commence à provoquer des contractions que je ne sens pas en réalité, mais qui existent, qui sont toutes petites, 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 et qui sont évidemment internes. Et en fait, la contraction, comme je suis assez menue, finalement, le bébé avait peu de place. Les contractions, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'attention, je ne suis pas médecin, contraignent le cœur du bébé. Et du coup, il y a des mini-arrêts cardiaques. Et on a les infirmières qui débarquent, qui touchent tout un tas de trucs pour que ça s'arrête. Et puis moi, quand je vois la lumière rouge et le non, je me mets à fondre en larmes parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de perdre mon bébé. Et donc, je commence à crier. Je veux pas perdre mon bébé, je veux pas perdre mon bébé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On m'explique en plus, dans la précipitation, qu'il faut pas que je m'inquiète, que c'est le cœur qui s'arrête. Pour moi, c'est deux idées complètement contradictoires. Ne pas s'inquiéter, le cœur s'arrête, et c'est quand même pas forcément évident. Donc, je pleure de plus belle en disant, mais non, mais si le cœur s'arrête, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et du coup, mon obstétricien, qui me suit depuis le début, entre dans la salle parce que je suppose que les infirmières lui ont dit « il faut que vous y alliez » parce que là, elle a l'air très, très, très inquiète. Et il vient me voir et avec ses gants en l'air et il me dit « bah alors, Madame Bannon, faut pas pleurer comme ça, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et donc, je lui explique que la lumière, l'alarme, là, tout ça, ça m'angoisse et qu'on m'a expliqué que le cœur de mon bébé s'arrêtait et que j'étais complètement terrorisée. Et il me dit « mais non, mais il faut pas du tout s'inquiéter. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire, je vais percer la poche des os, ça va faire plus de place pour votre bébé et tout va bien se passer. » Il a percé la poche des os, l'alarme s'est arrêtée et en même temps du coup que j'ai perdu les os, je me suis mise à pleurer, j'ai pu m'arrêter et j'avais autant d'eau qui coulait en haut qu'en bas apparemment. Et là, il a été merveilleux et j'ai vraiment un obstétricien exceptionnel parce qu'il a compris. Quand il a vu que je pleurais de plus belle alors que l'alarme s'arrêtait, il m'a demandé, il m'a dit « c'est pas seulement à cause de l'alarme que vous pleurez, mademoiselle Bannon. » Et je lui ai dit « non !» Et il m'a regardé, il m'a dit « il est parti ?»« Oui !» Et là, j'ai entendu ma mère derrière dire « comment ça, il est parti ?» Très énervée. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « mais enfin, mademoiselle Bannon, on n'a pas besoin de lui, on va faire ça entre nous, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de raison de pleurer. » Et effectivement, On a fait ça entre nous. Ma fille Tania est née en 20 minutes. Et de là, bah, évidemment, j'ai envoyé des messages, j'ai essayé d'appeler pour prévenir mon compagnon que le bébé était né. De toute évidence, bah, ça n'était pas son sujet. Il m'avait dit qu'il ferait ce qu'il avait à faire par rapport à son enfant et il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il m'a dit ça au départ parce qu'il en avait vraiment l'intention ou est-ce qu'il a dit ça pour que les nouvelles arrivent petit à petit? Je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place. Pour le coup, j'ai compris que ce n'était pas un coup de sang et j'ai très vite compris qu'il y aurait Tania et moi et mes amis qui allaient devenir une famille autour de moi, mais qu'il ne fallait pas que je compte sur lui. Ce qui ne m'empêchait pas de pleurer comme une madeleine et d'espérer tous les matins qu'il débarquerait le soir, évidemment. Je me suis sentie dupée, ça c'est certain. J'ai vraiment l'impression d'avoir cru être avec quelqu'un et en fait d'être avec un autre. Et en fait, je pleure tout autant sur l'histoire qui se finit que je pleure sur le fait que je m'étais promis que je n'aurais pas un enfant sans père, comme moi j'avais été une fille sans père quelque part, même si mon père existe et que je sais qui il est, mais que je n'aurais pas un enfant qui grandirait sans père. Et quelque part, j'ai l'impression que tout commence par un échec. Je suis toujours à la maternité. J'y suis presque bien, finalement, parce que les sages-femmes s'occupent énormément de moi. Tout le monde s'entend sans me le dire pour que, globalement, je sois jamais seule. Je dois vraiment remercier tous mes amis parce que personne ne m'a laissée seule une fraction de seconde. Et du coup, j'ai cette angoisse de me dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir d'ici, parce que je suis presque coupée du temps, je suis dans une bulle, je suis sous cloche, on s'occupe de moi, on m'aide à m'occuper de ma fille. Je ne sais pas ce que ça fait de se retrouver seule dans la vie avec un bébé, et ça m'angoisse. Et du coup, je prolonge à mort le temps que je passe à la maternité jusqu'à ce que la marraine de ma fille me dise « En fait, tu ne vas pas rentrer chez toi, tu vas venir à la maison. » Parce que même quand tout se passe bien, le retour chez soi avec un bébé, c'est compliqué. Donc là, dans ces conditions-là, je ne te laisse pas rentrer chez toi. Et au départ, je dis non, il faut que je rentre à la maison. De toute façon, il va bien falloir que je m'habitue. Et puis, elle me persuade. Elle a eu tellement raison parce que je ne sais pas comment ça se serait passé si je n'étais pas allée chez elle. Je passais mon temps à pleurer, tout le temps. C'est la fin dans le monde, je pleurais. Si je me cassais un ongle, je pleurais. Enfin, je passais mon temps à pleurer, c'est pas compliqué. Dès qu'on ne me voyait plus, on cherchait où j'étais allée pleurer tranquille. Je sais pas si j'arrive à m'occuper de ma fille. Je m'en occupe, mais est-ce que j'aurais su m'en occuper seule? Je sais pas, parce qu'il faut reconnaître que sa marraine fait en sorte qu'on m'aide. Et je me retrouve avec une femme extraordinaire qui s'appelle Loudy et qui m'apprend tout. Qui m'apprend à m'occuper de mon bébé, qui m'apprend à lui donner son bain, qui m'apprend tous les gestes, à la tenir, à tout, elle m'apprend à être mère. Et oui, évidemment, qu'à cette période-là, malgré le choc, malgré tout, je m'occupe de ma fille, mais en fait, je suis très aidée. Et vraiment, c'est une chance incroyable que j'ai eue à ce moment-là. Je commence à prendre confiance en moi. Mais aussi, la marraine de ma fille, son mari, me disent que passer le choc, il faut aussi se ressaisir. Il faut rentrer chez soi quand même. Dans un premier temps, j'y retourne toute seule d'abord pour voir dans quel état c'est. Ma fille doit avoir 11-12 jours et je ne suis toujours pas rentrée chez moi, donc je ne sais même pas dans quel état il a laissé l'appartement. Puisqu'il a vidé toutes ses affaires, mais je ne me rends pas compte de ce que ça signifie. Je rentre et je fais le ménage. Et donc, je commence à regarder un peu partout en me disant « Finalement, il est vachement grand cet appartement, maintenant qu'il n'y a plus rien. » Je me dis que ce n'est pas si mal. Enfin voilà, j'essaye de retourner, d'en rire de force. Et le lendemain, je reviens à la maison avec ma fille. C'était très étonnant parce que j'avais envie de lui présenter chez elle, en fait. Et donc là, je me retrouve dans l'appartement. Bon, une fois que je lui ai fait faire le tour, je sais pas, tout d'un coup, j'ai un sentiment de solitude. Et je me dis, allez, on s'en fout de tout. Tu sais quoi, bébé? On va aller chez le coiffeur. Du coup, j'appelle en demandant à la patronne. Je lui dis, est-ce qu'il y aurait moyen que je vienne là maintenant tout de suite? Et elle me dit, non, là, c'est vraiment pas possible. En fait, c'est complet. Et je fonds en larmes avec mon bébé dans les bras. Et elle me dit, mais non, mais c'est pas grave, tu sais, demain, on peut s'occuper de toi si tu veux. Je dis, non, il faut que je vienne tout de suite. Et je pleure comme une madeleine. Et ben, de la même façon que l'obstétricien, elle a dû se dire, je sais pas ce qu'il y a, mais il se passe forcément quelque chose. Elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, viens, on va trouver une solution. Viens. Et donc, j'ai débarqué avec mon bébé et on s'est retrouvés là-bas. Et comme depuis le début de la vie de ma fille, finalement, ben, tout le monde a fait bloc autour d'elle. Il y a toujours eu des belles énergies autour, il y a toujours eu des sourires. Et je suis restée ce soir-là, bien plus tard que la fermeture. Et on est restés, on était quatre bonnes femmes autour de mon bébé. Et elle lui répétait que tout allait très bien se passer, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que finalement, la vie était pleine de rebondissements. Et j'arrêtais pas de répéter à ma fille, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Notre petite vie commence à se construire comme ça et je finis par y prendre du plaisir. Je finis par aimer cette vie-là et ma fille m'aide énormément parce qu'il faut savoir que j'ai une fille qui, dès la maternité, dormait 15 heures par nuit, immédiatement. Ça, les sages-femmes m'ont expliqué à l'hôpital. Elles m'ont dit, c'est assez fréquent quand la mère a eu un choc. L'enfant, en fait, quand il arrive, il le ressent, il ne veut pas déranger. Et c'est, je pense, exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Et du coup, notre vie à deux s'est mise en place très facilement parce qu'elle m'a empêchée de rien. Rien n'était impossible avec Tania. Je pouvais aller déjeuner au restaurant, ça pouvait durer 2h30. Qu'elle était sur la banquette pendant 2h30, ça ne posait pas de problème. Et c'est à ce moment-là, Tania devait avoir un peu plus de 2 mois, elle n'avait pas encore 3 mois, qu'une amie me dit qu'elle va passer déjeuner. Elle a eu un bébé 1 mois avant moi, un petit garçon. Et pendant le déjeuner, elle me dit, tu te souviens, je t'avais parlé d'un garçon, il est fait pour toi, il est vraiment merveilleux. Bon, soyons sérieuses, maintenant que tu es célibataire, je peux te le présenter. Et alors, je lui dis, non, mais en fait, il n'y en est pas question. Je t'explique, je suis vaccinée, je ne veux plus entendre parler des mecs. On a notre petit rythme avec ma fille, tout va bien. Surtout, tu sais quoi, ton gars, tu te le gardes et tu l'envoies à une autre. Et elle me dit, mais si, il est fait pour toi. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a toujours été persuadée qu'on était fait pour être ensemble. Elle me le décrit comme étant très grand. Or, je ne suis pas très grande, donc déjà, ça me plaît moyennement comme concept. Ensuite, il se trouve qu'il porte le même prénom que le précédent. Donc, autant dire que je lui dis, non, mais alors là, c'est no way. C'est... Comment te dire que ça n'est pas possible? Et comme elle est sûre de son fait, elle essaye de l'appeler. Il se trouve qu'il travaille régulièrement avec son mari, qui lui est chirurgien. Et elle lui dit, t'es où là? Et il lui répond, il lui dit, bah, écoute, justement, là, présentement, tout de suite, maintenant, je suis avec ton mari. Tu veux pas venir prendre le café avec nous? Bon, ça n'est pas possible, son emploi du temps ne lui permet pas. Et donc, elle raccroche. Je lui dis, bah, tu vois, le sort a décidé pour toi, il ne peut pas venir prendre un café, donc voilà, problème réglé. C'est même pas que je me l'interdis, parce que s'interdire un truc, ça voudrait dire que j'en aurais potentiellement envie et que je m'empêche d'en avoir envie. C'est juste que ça ne me traverse même pas l'esprit. J'ai une petite fille qui n'a même pas encore 3 mois. J'ai fini de pleurer depuis, 1 mois et demi à tout casser. Je suis bien, je suis tranquille. Non, je n'ai pas envie, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, je vois qu'elle est hyper déçue qu'il ne puisse pas venir prendre un café. Et plus par jeu, par provoque, par amusement, et puis parce que j'ai envie de la faire sourire, parce que c'était gentil, ça partait d'une tellement belle attention. Je me dis, tiens, je vais aller sur les réseaux sociaux. C'est quoi son pseudo à ton monsieur parfait? Et je le trouve sur les réseaux et j'ouvre une conversation à 3. Et je lui dis, je ne sais plus quoi exactement, mais un truc du genre, alors il paraît que tu ne peux pas venir prendre un café, notre amie commune est au bord des larmes, c'est dramatique. Il répond tout de suite. Le soir, sur cette conversation à 3, on continuait toujours de s'envoyer des messages. Et je trouvais ça sympathique et ça m'allait bien comme ça, en fait. J'étais ravie qu'existe quelqu'un quelque part, que ça amuse de m'envoyer des messages et à qui ça semble faire plaisir, mais que ça ne soit que ça. C'était parfait. C'était exactement à ce moment-là de ma vie avec ma fille, ce dont j'avais envie. Je ne voulais surtout rien d'autre. Je ne vois pas sa photo parce que sur sa photo de profil, il avait un casque de sport d'hiver. Il devait faire du surf ou je ne sais quoi. Je sais juste ce qu'elle m'en avait dit. Donc, il était très grand, qu'il était plus ou moins blond, mais pas vraiment. Qu'il avait les yeux clairs, mais elle ne savait plus vraiment de quelle couleur. Mais qu'il était fait pour moi. Voilà. Et le soir, il passe de la conversation à trois à une conversation à deux. On fait plein de blagues. Il me parle de son boulot. Je lui parle du mien. Je sais qu'il y a un moment où je lui dis il faut que j'aille donner son bain à ma fille. Et où là, tout d'un coup, il me dit « T'as une fille, elle a quel âge ?» Et donc, je lui dis « Bientôt 3 mois. » Et alors, il ne comprend pas du tout. Il m'envoie un message en disant « Mais enfin, je croyais que t'étais célibataire. » Je lui dis « Ah oui, ça, c'est vrai aussi. Les deux sont vrais. J'ai une fille et je suis célibataire. Les deux sont parfaitement, parfaitement authentiques. » Évidemment, du coup, je lui explique ce qui s'est passé. Et avec beaucoup d'élégance et de galanterie, il me dit des phrases toutes faites qui font plaisir, comme il ne sait pas à côté de quoi il passe. Et on continue à rire sur tout et sur n'importe quoi. On faisait beaucoup de blagues. On aimait bien faire des blagues. Et moi, j'étais ravie d'en faire et d'en recevoir. Et donc, il revient à Paris. Et il me propose d'aller au théâtre. Et alors là, je suis bien embêtée. Ah non, 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 j'ai dit que ça m'allait très bien, moi, d'échanger des messages. Ça m'allait très bien, j'avais pas envie que ça aille plus loin. Je trouvais ça chouette d'échanger des messages, je trouvais ça... C'était léger, c'est un truc de gamin, un peu. On attend le prochain message, c'est un truc assez joyeux et assez... Oui, ça me faisait me ressentir comme une gamine et je trouvais ça chouette. Il me propose d'aller au théâtre et sur le coup, je me dis « Ah merde, moi j'avais pas du tout prévu ça. Moi je croyais qu'on allait rester à s'envoyer des messages comme ça sans se voir pendant des centaines d'années jusqu'à ce que mort s'en suive, ça m'allait très bien. » Je sais toujours pas à quoi il ressemble à ce moment-là. Et je me dis finalement c'est un moindre mal. Le théâtre c'est pas mal parce qu'on va être occupé à regarder quelque chose. Ça va nous donner un sujet de discussion avant et ça nous donnera un sujet de discussion après. Puis après, je rentre à la maison. Puis là, il me dit, c'est quand même un peu bizarre d'aller au théâtre sans s'être rencontré. Il faut mieux qu'on se prenne un café avant. Et alors là, me voilà bien embêtée. Parce que je me dis, mais non, il est très insistant, ce garçon. Non, 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 je ne peux absolument pas aller prendre un café. Et du coup, comme je ne sais pas trop comment faire en sorte qu'il obtienne son café... mais que néanmoins, cette situation telle qu'elle est demeure, et que finalement, on continue à s'envoyer sagement des messages et à se faire plaisir comme ça, je trouve une opportunité qui est qu'en fait, l'école supérieure de journalisme, qui tient salon au salon de l'étudiant Porte de Versailles, me demande de lui accorder une interview dans le cadre de la radio qu'ils ont sur place. Et j'ai accepté, et ça tombe un dimanche. Ça a l'air innocent le fait que ça tombe un dimanche, sauf que je n'ai personne pour garder ma fille un dimanche. J'ai demandé à tous les amis, j'ai demandé à Loudy qui le dimanche, c'est le jour du Seigneur, elle ne peut pas. Et donc, j'ai aucune solution. Et je me dis, bon, bah, ou j'y vais avec mon bébé, mais ça ne va quand même pas être hyper pratique, ou m'est donnée cette possibilité qui, tout d'un coup, veut absolument prendre un café. Je me dis, je vais lui demander, on ne sait jamais. Et donc, je lui dis, écoute, si tu veux vraiment prendre un café, j'ai une idée. Voilà, donc j'explique l'interview, le dimanche, le truc, le fait que j'ai personne pour garder ma fille. Et je lui dis donc, tu nous rejoins en bas de l'appartement, enfin en bas de l'immeuble. On prend le Uber ensemble, comme ça on fait connaissance dans le Uber. Et puis je vais te présenter ma fille, c'est important, parce qu'après tu vas la garder en fait, pendant toute la durée de l'interview. Ce que je me suis dit, c'est que le fait de se retrouver avec un bébé dans les bras allait lui faire prendre conscience que je n'étais absolument pas la bonne option. Mais que le temps qu'il en prenne conscience, il aurait gardé ma fille et j'aurais donné mon interview. Que donc, après, vraisemblablement, il me dirait « Bon, bah, on va peut-être pas aller prendre un café », mais qu'à minima, au moins, j'aurais réglé mon problème. Et donc, il accepte. Il prend le bus pour venir et il est en retard. Et donc, quand il arrive, nous, on est déjà dans le Uber, et il court, et du coup, il rentre directement dans le Uber. Ce qui fait que, au moment où il rentre dans le Uber, je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. Et je suis avec ma fille dans le Uber, et comme je suis un peu gênée quand même, parce qu'on est un peu gênée dans ce genre de cas, on ne sait pas trop, voilà, on cherche une contenance. C'est un inconnu, on a échangé plein de messages, mais on ne s'est jamais vu. Lui, il sait qui je suis, puis il sait à quoi je ressemble, d'abord parce que je ne porte pas un casque sur ma photo de profil. Mais moi, je ne sais toujours pas à quoi il ressemble au moment où il entre dans la voiture. Donc, comme j'ai besoin de me donner une contenance et que je ne sais pas trop quoi faire de mes mains et ni de rien, et ben, je lui tends le bébé. Je lui dis, tiens, je te présente. Alors, elle s'appelle Tania, Tania, Pierre, Tania. Et là, je le vois. Je le trouve très, très beau. Et je suis surprise moi-même, pas de le trouver beau. Hein. Ça, c'est... Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit moche. Hein. Mais je suis surprise parce que il est très parfait, en fait. Moi, j'ai jamais, dans ma vie jusqu'à présent, été avec des garçons beaux et parfaits. C'est ni bien ni mal, je veux dire, mais c'est... J'ai pas l'habitude. Il fait pas torturé comme beaucoup de garçons avec lesquels j'ai été. Il fait pas bad boy comme beaucoup avec lesquels j'ai été quand j'ai eu 20 ans, comme on a tout été quand on a eu 20 ans. Enfin voilà, il fait sain, serein, il est beau, gentil. Il a un regard vraiment bienveillant. Et je suis pas habituée. Donc sur le coup, ça, je me souviens m'être dit, tiens, j'ai pas l'habitude. Et en même temps, ça correspondait tout à fait aux échanges qu'on avait eus. Et donc, il joue le jeu, il prend la petite dans les bras et puis il se présente. Et il me demande s'il y a des choses à savoir, il me demande ce qu'il faut qu'il fasse si elle pleure. Il n'a pas d'enfant et il n'a jamais eu une folle envie d'en avoir en plus. Ça n'a jamais été un projet, il est un tout petit peu plus jeune que moi. Et c'est à ce moment-là, quand je le rencontre, c'est en plus un fêtard. Pas du tout de sensibilité ou de prédisposition particulière pour les bébés. Et donc, on arrive là-bas. La jeune femme qui était chargée de nous réceptionner à l'endroit où les taxis se garent vient nous chercher et du coup commence à lui parler comme s'il était le père, ce qui semblait logique. Elle n'est pas censée connaître toute mon histoire et toute ma vie. Et lui ne dit rien. On arrive sur le lieu de l'interview, en plein milieu du salon. Et donc, moi, on m'installe très vite parce que, du coup, j'étais un peu en retard. Je commence à répondre aux questions et je vois du coin de l'œil, un peu loin, Pierre avec ma fille dans les bras, en train de la bercer, très calme et très serein. Je vois des gens s'arrêter, lui parler. Je ne sais pas trop ce qu'ils lui disent. En tout cas, il a l'air de sourire et ça a l'air de bien se passer. Donc ça, ça ne me surprend pas. Ce que je me dis, c'est bon... Tout se passe bien, tout est géré, donc je peux m'occuper de cette interview qu'il faut que je finisse. En revanche, je me dis, dans un moment, quand je vois les gens s'arrêter, je me dis, ils doivent tous penser que c'est le père. Ça serait mentir si je disais que ça me fait quoi que ce soit, parce que ça ne me fait rien. Mais ça m'amuse, en revanche. Et les gens pensent d'autant plus que c'est sa fille qu'elle lui ressemble. Et qu'elle lui ressemble beaucoup plus qu'elle ne me ressemble. Elle a exactement sa couleur d'yeux, elle avait un regard qui ressemblait beaucoup plus au sien qu'au mien. À tel point que quand l'interview a été finie et que je suis allée voir quand même comment ça se passait, bah les gens ont continué à s'arrêter et ils s'excusaient en me disant « Oh, désolée mademoiselle, mais c'est dingue ce qu'elle ressemble à son père quand même. » Et du coup, ça nous mettait dans une situation très étrange. Alors lui, il souriait, mais je me disais « C'est quand même dingue ce truc. » Quand on sort de là, je lui dis « Mais alors, convaincue de mon fait le plus naturellement du monde, bon, on va peut-être pas aller prendre un café du coup. » Et alors là, lui, il me dit tout aussi naturellement, bah, j'ai pas attendu jusque-là pour qu'on aille pas prendre un café, faut pas déconner. On reprend un taxi jusque près de chez moi et on va prendre un café. On pose Tania sur la table d'à côté, regardant le plafond en bon bébé qu'elle est. Et on commence à discuter de nous. Et là, il y a un vrai rapport de séduction qui se met en route. C'est vraiment au moment où on a pris ce verre qu'il y a quelque chose qui a basculé et qui n'a vraiment, vraiment, vraiment rien à voir avec le fait que ça se soit bien passé avec le bébé avant. Comme je n'étais pas en recherche d'un père pour Tania, le fait que lui, ça se passe bien avec elle, c'était pas mon sujet, en fait. Que lui s'entende bien avec ma fille, bon, bah tant mieux. Mais je recherchais pas de père pour ma fille et que Tania s'entende bien avec lui, ça n'était pas une surprise. J'avais jamais vu mon bébé ne pas accrocher avec quelqu'un. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là et qu'on s'est plus tous les deux et que comme ça s'était bien passé avec le bébé, c'était possible et on pouvait envisager quelque chose. Il me pose plein de questions. On n'est pas vraiment dans les questions intimes, mais en revanche, il me pose plein de questions sur ma vie, sur notre vie à Tania et moi, sur comment on organise nos journées, sur... Voilà, il me raconte lui, parce qu'il fait un travail dans le domaine médical que je connaissais pas du tout. Donc, il me raconte comment ça se passe. Et donc, ça dure assez longtemps, à tel point qu'il finit par s'apercevoir qu'il est en retard pour sa soirée entre copains qu'il avait à l'autre bout de Paris, dans les quartiers où on fait la fête. J'avais pas la poussette, j'avais rien. Et donc, il me propose de me raccompagner jusqu'en bas de mon immeuble pour me la porter. Donc, il la porte sur tout le chemin. Et arrivé en bas de l'immeuble, je lui dis que je suis au quatrième sans ascenseur. Et donc, il me dit, bah, attends, je vais te la monter. Et donc, il la monte et il repart vite parce qu'il était vraiment... Il avait des amis qui l'attendaient dans un restaurant depuis une bonne heure. Il m'envoie tout de suite un message en me disant qu'il a été ravi, tout ça, voilà. Et vers, vers 11h30, minuit, je me couche, j'éteins mon portable. Et quand je me réveille le lendemain matin, j'ai un message qu'il m'a laissé complètement torché entre 3h et 4h du matin, je ne sais plus exactement, disant qu'on lui manquait beaucoup, ma fille et moi, et qu'il espérait nous revoir vite, et que ça l'embêterait beaucoup si on ne se revoyait pas, et qu'il serait très triste. Et je trouve ça très attendrissant et très... Et pour le coup, là, en revanche, le fait qu'il inclue ma fille dans l'histoire me touche d'autant plus. Pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où on devait aller au théâtre, on s'envoie des messages. Je suis encore très réservée, je suis sur la défensive. Je suis sur la défensive blague. Je me défends par l'humour beaucoup. Quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues. Et puis donc, le jour du théâtre arrive, j'avais prévu que ma fille parte pendant 5 jours chez une amie. Très bizarrement, peut-être parce que très tôt, justement, il y a eu beaucoup de monde autour de moi pour m'aider à m'en occuper. J'ai jamais eu de difficulté à confier ma fille. Et nous sommes allés au théâtre, assez gênés, je crois, l'un et l'autre, finalement, un peu comme des enfants. Parce que je voyais bien, on ne savait pas trop, on était maladroit, on ne savait pas trop quoi dire, quoi faire, enfin voilà. Donc on est allé voir la pièce. Après, on ne savait pas trop si on voulait aller au restaurant, pas aller au restaurant, passer faire 3 courses et rentrer à la maison, pas rentrer, enfin voilà, on était comme des gamins, quoi. Et puis finalement, on est allé faire quelques courses. C'est moi qui ai proposé ça parce que je ne me sentais pas d'aller dans un restaurant, en fait. J'avais envie d'être tranquille. Parce que l'air de rien, quand même, beaucoup de choses s'enchaînaient. Et j'avais peut-être inconsciemment envie d'être dans un endroit rassurant, comme chez moi. Et on s'est retrouvés à la maison. Et on a passé toute la nuit à manger, à boire, et à regarder des films que j'ai trouvés absolument excellents, puisque c'était mes films préférés, et qu'il a détestés. On a beaucoup parlé avant les films, et même beaucoup parlé pendant les films, parce que comme de toute façon, il ne les aimait pas, on ne loupait pas grand-chose, moi je les connaissais par cœur. Et on a été très sages toute la nuit. On a dû faire des bisous, mais c'est tout. Ce qui fait qu'à 6h du matin, parce qu'il commençait à travailler très tôt dans les hôpitaux, à 6h du matin, il est parti travailler après avoir fait une nuit blanche. Le soir, pour le coup, on s'est envoyé plein de messages, mais on était chacun chez nous parce qu'on avait besoin de dormir quand même. Au bout d'un moment, on était très fatigués. Ça faisait quand même près de 48 heures qu'on était debout, donc il fallait quand même penser à dormir. Et puis, le jour d'après, je crois que j'avais des amis qui devaient venir prendre un verre, un apéro à la maison. Et Pierre m'envoie des messages où on s'appelle, enfin, je ne sais pas. Il me propose qu'on se voit et je dis, non, je ne peux pas, j'ai des amis qui viennent. Je dis, mais viens. Et donc, il me dit, OK. Puis il m'envoie un message en me disant « Tout va bien, besoin de rien ». Et là, je rappelle, je dis « C'est un drame, c'est absolument dramatique. Ils arrivent dans 2 heures, j'ai encore rien fait, j'ai encore rien préparé, enfin voilà ». Et là, il a tout pris en main, il m'a dit « T'inquiète pas, je suis dans ma voiture, je m'occupe de tout, je vais acheter ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux en particulier ?» Et donc, je lui dis non. Et il a tout organisé, j'avais plus qu'à arranger les choses à la maison. Mais enfin, il a tout prévu. Je me suis dit « Mais ce garçon est parfait ! Ça cache quelque chose. Où est le vice caché ?» Pour dire, 5 ans après, je cherche toujours le vice caché. Hein. Et pour le coup, après que les amis soient partis, il est resté. Et là, nous avons consommé. Et on n'a plus du tout été des gentils. Et de ce jour, il a dormi tous les soirs à la maison jusqu'à hier où il est parti pour un déplacement professionnel. Et en fait, après, ma fille est revenue dans l'après-midi, donc lui était en train de travailler. Il m'a appelé en me demandant si je voulais qu'il vienne dormir le soir. Et je lui ai dit, c'est comme tu veux, mais Tania est rentrée. Et il m'a dit, pas de problème, comme ça, c'est moi qui vais lui donner son bain. Il est rentré et il lui a donné son bain, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il m'a juste demandé quelques questions et il a passé la nuit à la maison. Et le lendemain matin, l'appartement est sur 2 étages. Moi, je dors en haut et ma fille dormait en bas. Et le lendemain matin, quand il est parti, parce qu'il a toujours commencé très, 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 très tôt le matin, et je l'ai entendu quand il est parti entrer dans la chambre de ma fille et aller lui dire bonne journée alors qu'elle dormait. Et il y avait mon chien aussi en bas. Il a dit au revoir au chien et est parti. Et est revenu le soir. Comme si c'est... Mais à chaque fois, au début, tous les jours, il m'envoyait un message pour savoir si je voulais qu'il revienne dormir le soir. Mais quand je disais oui, ce qui s'est passé à chaque fois, ça se faisait de façon hyper naturelle. Et petit à petit, bah, il prenait sa place. Il s'occupait de la petite avec moi. Et tout devenait hyper naturel. Et il est vraiment devenu petit à petit son père. Et jusqu'au jour où... peut-être un mois et demi après, deux mois, en tout cas pas longtemps après, on a réfléchi, lui et moi, et on s'est dit que bah, ce serait bien d'aller la reconnaître, en fait. Parce que administrativement, ma fille n'avait pas de père. Et donc, ça devenait absurde qu'elle n'ait administrativement pas de père, puisque dans la vie, elle commençait à en avoir un. Et le jour où il m'a proposé d'aller la reconnaître, ça a été sans doute quelque chose de plus important dans notre vie que le jour de notre mariage, que quoi que ce soit d'autre. Et il est allé à la mairie, il a reconnu sa fille. Et quelques mois plus tard, elle a été gravement malade. Elle a été hospitalisée pendant 7 jours. Et c'était assez sévère, on l'a vu vraiment même physiquement changer, se creuser. Elle avait perdu la moitié de son poids. Et là, il a été tout le temps... Il n'a, pour ainsi dire, pas été capable de travailler pendant une semaine. Il a été à l'hôpital auprès d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on a commencé, au fur et à mesure qu'on nous expliquait à la crèche ou chez le pédiatre, qu'on nous expliquait qu'elle comprenait ce qu'on lui disait, même si elle ne parlait pas, on a commencé petit à petit à lui expliquer que maman et papa s'étaient rencontrés quand elle avait 3 mois, que maman avait le même sang qu'elle, mais que papa n'avait pas le même sang, mais qu'il avait les mêmes yeux qu'elle. Petit à petit, c'est devenu elle qui s'est emparée de cette histoire et qui s'amusait à dire à tout le monde « Moi, mon papa, il m'a rencontrée quand j'avais 3 mois. » Et puis, il m'a vue et il a dit « Elle est trop belle, je veux être son papa. » Et donc, elle adorait raconter ça et elle adorait dire qu'elle avait les mêmes yeux que son papa. Et elle adorait dire aux gens que maman et papa s'étaient rencontrés sur le trottoir. Ce qui, parfois, donnait lieu à quelques éclats de rire. Aujourd'hui, on a son petit frère depuis février 2020, donc depuis bientôt 1 an et demi. Et son petit frère, son arrivée, ça a été quelque chose évidemment de voulu par nous trois, parce que c'était aussi une volonté de Tania. Pour lui, il est son père et c'est quelque chose d'évident et qui ne souffre même pas la discussion. Ça a été compliqué d'accepter de l'idée d'avoir un autre enfant, alors qu'il le voulait, parce qu'il avait peur que Tania se sente différente. Et pour lui, c'était inimaginable et insoutenable que sa fille puisse se sentir différente d'un possible deuxième enfant. Finalement, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que ça arrive. Et Ethan est arrivé en février de l'année dernière. Et vraiment, je demande à ce que quelqu'un qui ne connaisse pas notre histoire s'aperçoive qu'il partage son sang avec l'un et avec l'autre, ou que les enfants sont différents par rapport à lui ou quoi que ce soit. C'est vraiment... il a 2 enfants dont il est pareillement père. Et ça a même bouclé la boucle et clôturé l'histoire, parce que c'est sans doute ce qui manquait à la cohérence de ce qu'on s'amuse souvent à appeler une famille autoconstruite. C'est-à-dire que Tania a fait de lui un père. Moi, il a fait de moi une femme puisqu'on s'est mariés. Tania adore raconter que c'est notre mariage à tous les trois, puisque c'est elle qui nous a accompagnés à l'hôtel, c'est elle qui nous a tenus, puisque moi, j'avais pas de père pour m'amener à l'hôtel, donc on savait pas trop comment gérer cette chose-là. Et finalement, c'est Tania qui nous a pris l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, et qui nous a amenés devant le prêtre. Et finalement, sans doute que la seule chose qui manquait à notre famille, c'était d'avoir un petit bonhomme qui vienne clôturer l'histoire et qui vienne boucler tout ça. Et voilà, et c'est arrivé. Et Tania est la sœur la plus heureuse du monde de s'occuper de son petit frère. Et Pierre et moi, on est hyper fiers et hyper heureux de nos enfants et de ce qui s'en dégage comme facilité, comme simplicité. C'est-à-dire que tout a toujours été évident. Elle m'a demandé, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit mais comment papa il a pu mettre la graine puisqu'il m'a rencontrée quand j'avais 3 mois ? Je lui ai dit, mais c'est pas papa qui a mis la graine, C'est un monsieur qui a mis la graine. Et il y a des messieurs comme ça, tu sais, ils veulent faire des enfants. C'est un monsieur qui voulait que tu existes. Mais après, ils ne veulent pas être papa. Et je lui dis, mais c'est pas grave puisque tu as rencontré papa. Pour nous, c'est très simple. C'est pas parfaitement intégré comme ça. Finalement, c'est la famille dont je rêvais avant d'avoir ma fille et dont je pensais qu'il fallait faire une croix dessus quand je me suis retrouvée seule avec elle. Je ne vois pas Pierre comme un sauveteur, même si c'est ce qui a été écrit il y a peu de temps dans un article qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs parce qu'il était assez absurde. Parce que pour qu'il ait été un sauveteur, il lui fallu qu'il y ait quelqu'un à sauver. Et au moment où Tania et moi, on a rencontré Pierre, on allait bien. On n'avait pas besoin d'être sauvés, on avait un équilibre, voilà. Et peut-être, là, je raconte notre histoire familiale, je raconte le point de départ qui part de Tania et moi, mais peut-être, j'en sais rien, il faudrait lui poser la question, peut-être que Pierre aussi avait besoin d'être sauvé. Peut-être qu'on s'est tous sauvés mutuellement, mais j'étais pas en quête d'un père, j'étais pas en quête d'un compagnon. Notre amie commune, elle a eu le nez creux et l'histoire est devenue belle parce qu'aussi on a voulu qu'elle soit belle et parce que naturellement, elle est devenue belle. Vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est tous trouvés. Et d'ailleurs, le premier à nous avoir dit, on s'était rencontrés pour le coup depuis 3-4 jours, le premier à nous avoir dit « je serais vraiment très, très, très mal si Tania et toi vous disparaissiez de ma vie », c'est lui. Il y a complètement une double rencontre. Il y a eu un coup de foudre entre Tania et son père, et il y a eu un coup de foudre entre Pierre et moi. Et les deux sont complètement dissociés au moment où ils se vivent. Après, évidemment, ils se rejoignent, puisqu'on fait famille. J'aurais jamais pu tomber amoureuse de quelqu'un uniquement parce que ça se passait bien avec ma fille. Jamais, 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 jamais. J'avais pas suffisamment d'envie d'un père pour Tania pour ça. J'avais grandi moi-même sans père. Maintenant qu'on avait retrouvé un équilibre, ça pouvait continuer comme ça. Je peux dire en tout cas que la famille n'a rien à voir avec les liens du sang. Rien, rien du tout. Le fait de faire famille, ça a à voir avec le fait de grandir ensemble. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de hasard. Derrière toutes les catastrophes qui pouvaient arriver dans la vie, il y avait quelque chose d'autre qui attendait. Il fallait juste savoir le shipper au moment où ça arriverait. Si l'histoire s'était pas passée comme ça, la famille aurait été moins belle. J'en suis absolument aujourd'hui convaincue. J'aurais jamais dit ça au moment où je me suis retrouvée seule avec mon bébé à la maternité. Mais aujourd'hui, je suis absolument convaincue que jamais, jamais, jamais nous aurions pu construire une famille aussi forte, aussi belle et aussi pleine d'amour que celle qu'on a faite. On n'aurait jamais fait une famille aussi belle. Pierre est exactement comme il en a l'air. Il a l'air rassurant, droit, bienveillant, stable, serein, sain, absolument pas torturé. Tout sauf romancier. Il est très exactement ce qu'il faut pour quelqu'un qui serait, quel que soit ce quelqu'un, qui serait une romancière, qui aurait vécu des moments un peu particuliers, qui serait un petit peu torturée sur les bords et qui aurait une propension à glisser vers le bas assez facile si on ne lui rappelle pas qu'il y a beaucoup de lumière en haut.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.